Alors, on va passer à cet exercice qui montre la complétude de ces zéros. Donc, la première chose pour montrer qu'un espace est complet, on va utiliser une technique à la main. On va prendre une suite UN qui est de Cauchy pour ces zéros. Donc, nous allons commencer par écrire ce que ça veut dire que la suite est de Cauchy. Donc, on se fixe epsilon strictement positif. Et du coup, par définition, c'est de dire qu'il existe un grand n, un indice grand n plus grand que 1, tel que quoi? Tel que pour tout n plus grand que grand n et pour tout p positif, on a que la norme de un plus p moins un dont la norme c0 est plus petite que epsilon. Donc jusque-là, c'est une écriture quasiment automatique de ce que ça veut dire le fait d'être une suite de Cauchy. On va utiliser à présent le fait que notre espace C0 n'est pas n'importe qui. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec, on va remplacer ça par la norme du sup. Alors du coup, c'est de dire quoi? C'est de dire que pour tout x, ici dans l'intervalle AB, vous avez que un plus p de x moins un de x est plus petit que epsilon en valeur absolue. Donc à ce stade, en fait, on va pouvoir fixer un élément x appartenant à B. Et du coup, on voit ainsi, par ce qui est écrit au-dessus, que la suite un de x, pour n plus grand que 1, est de Cauchy dans R. Voilà, et donc c'est ça qui va nous dire que, comme l'espace R est complet, ça va nous dire que on a que un de x converge vers une certaine limite, u de x, quand n tend vers plus l'infini. Donc peut-être même cette limite, je vais vous l'appeler, pour commencer, on va l'appeler l indice x, et ça, ça définit la fonction limite candidate. Donc ici, cette fonction u de x, ça va être notre fonction limite candidate. La difficulté à présent, c'est la question 2 de l'exercice, c'est de montrer que cette limite candidate est bien dans l'espace. Donc il s'agit de montrer que u appartient, enfin, est vraiment une fonction continue. Donc le réflexe, j'allais dire, ce qui est assez naturel pour faire ça, c'est d'utiliser une égalité triangulaire où on va avoir la somme de trois termes. On va avoir u de x moins un certain u grand n de x, plus un deuxième terme qui va être un de x moins un de y. Voilà, donc le premier terme, on se dit, va être petit parce que un de x tend vers u de x ponctuellement. On a un troisième terme qui va être assez similaire, qui va être u de y moins un de y, qui va aussi tendre vers 0. Et puis on a un terme central pour lequel on va utiliser la continuité de un. Le point délicat ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, on veut que le premier et le dernier terme soient uniformément plus petits que epsilon sur 2. Et quand je dis uniformément, ça veut dire qu'il faut que ce soit vrai pour tous les x et pour tous les y. Donc ce qu'il ne faut pas faire, et j'insiste lourdement là-dessus parce que j'ai beaucoup vu l'erreur ce matin, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer par se dire que okay, ce premier terme, il va tendre vers 0, donc il est plus petit que epsilon sur 3. Ce dernier terme, il va aussi tendre vers 0, il va être plus petit que epsilon sur 3 à partir d'un certain rang, et après j'utilise la continuité au milieu. Ce qui ne marche pas dans ce raisonnement, c'est que le rang à partir duquel le dernier terme est petit dépend de y. Et ce qu'on veut, c'est une majoration ici du premier et du dernier terme qui soit indépendante de y. Et c'est fondamental ici. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à ce que nous avons déjà, cette propriété que nous avons déjà, et on va passer à la limite p tend vers plus l'infini dans cette propriété. Donc quand j'écris ce que ça donne, ici, p tend vers plus l'infini, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que pour tout epsilon strictement positif, il va exister un rang n plus grand que 1, tel que quoi? Tel que si n est plus grand que grand n, pour tout n plus grand que grand n, j'ai que u de x, et pour tout x appartenant à b, et c'est vraiment ça qui est important, j'ai que u de x moins u petit n de x est plus petit que epsilon. Voilà. Maintenant, du coup, bon, on l'avait appelé x au premier transparent, mais ça va tout aussi bien de l'appeler y, et ce sera peut-être mieux en fait pour la deuxième question. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'ici, en fait, je travaille avec un n plus petit que grand n, mais en fait, autant mettre directement ici grand n. Donc quelque chose qui serait u grand n de y. Voilà. Donc ça, ça fait que en prenant cette inégalité ici, soit au point x ou plus génériquement pour le point y, je vais avoir que ce premier terme, enfin que le premier terme ici et le dernier terme là vont être tous les deux plus petits que un certain epsilon sur 3. Donc je vais me fixer un epsilon sur 3. Ça c'est juste pour faire joli. C'est-à-dire quand je regarde cette dernière inégalité, en fait, on va se dire que depuis le début, j'avais pris epsilon divisé par 3. Donc à ce moment-là, quand je reviens ici, je vois que le premier terme ici et le dernier terme là sont tous les deux plus petits que epsilon sur 3. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et pour faire ça, j'ai eu besoin de jouer seulement sur le rang grand N ici. Donc maintenant, une fois que j'ai ce rang grand N, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir... Donc ici, à ce stade, on a fixé... on a choisi grand N une fois que epsilon était strictement positif était donné. Et du coup, maintenant, on va pouvoir choisir en utilisant la continuité de un, continuité de u grand n. Il existe un état strictement positif, tel que quoi? Tel que si x moins y est strictement plus petit que état, alors j'ai que un de x moins un de y est plus petit que epsilon sur 3. Voilà. Et donc, c'est ça qui me permet de résoudre les choses. C'est-à-dire que je pars de cette inégalité ici. Je commence par introduire... donc ici, je commence par introduire grand N tel que le premier et le dernier terme soient tous les deux plus petits que epsilon sur 3. Et ensuite, j'introduis état tel que si x moins y est plus petit que état, alors le deuxième terme lui-même, ici, là, il va être plus petit que epsilon sur 3. Voilà, je vous renvoie au polycopier pour la rédaction claire, précise de refaire cette histoire. Mais ce qui est important, là, dans la version orale, c'est de vous avoir rendu attentif au fait qu'il faut absolument de l'uniformité sur le premier et le dernier terme pour que tout ça soit vrai. À partir du moment où vous avez du coup montré que la fonction est continue, on va pouvoir montrer que toute la suite un tend vers u pour la norme c'est 0. Mais à ce stade, ça c'est à peu près évident parce qu'en fait on va revenir à cette première inégalité. On va faire p tend vers plus l'infini. Et du coup, quand on aura p tend vers plus l'infini dans cette première inégalité, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que les un de x moins u de x est plus petit que epsilon. Et ça, c'était vrai pour tous les AB. Donc en fait, ce côté pour tout AB, je vais pouvoir le remplacer par le fait qu'ici, en fait, c'est une norme, c'est 0. Puis on va enlever l'argument x. Voilà. En fait, ici, il y a un moins u dans la norme c'est 0 est plus petit que epsilon dès que n est plus grand que grand n. Et c'est vraiment cette dernière inégalité-là qui va montrer la convergence de un vers u. Donc là, une fois que vous avez construit une limite candidate et vérifié qu'elle est dans le bon espace, c'est immédiat que toute la suite UN converge vers U dans la bonne norme.